Radio Kapi. Oh, Kapi.
Le chef de bureau de la MONUSCO Sud Kivu appelle à la mobilisation générale de tous les acteurs pour le retour d'une paix durable dans les hauts plateaux d'Uvira et Fizi. Un appel lancé en réaction au message de haine qui continue de circuler, appelant les jeunes à la violence. Et puis à Kananga, reprise depuis hier du procès du meurtre des experts de l'ONU, le journaliste Sosten Kambindi a été entendu hier jeudi comme renseignant. Il a été confronté à Ben Israël Toumba, un autre journaliste également en détention, autour de la première vidéo du meurtre. Enfin, notre invité dans cette édition du journal, c'est le professeur Julien Kilanga, ancien recteur de l'université de Lubumbashi, investi le 24 septembre dernier comme membre titulaire de l'Académie des sciences belles lettres et arts d'Angers en France. Il nous parlera du rôle qu'il y jouera au bénéfice de la RDC. Voilà tout pour le sommaire. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. Au Sud Kivu, la MONUSCO appelle à la mobilisation générale de tous les acteurs pour le retour d'une paix durable dans les hauts plateaux d'Uvira et Fizi. En effet, d'après Karna Soro, chef de bureau de la MONUSCO Sud Kivu, la paix reste la seule condition pour accueillir les projets d'investissement pour l'encadrement des jeunes après le retrait de la mission onusienne. Telle est sa réaction en rapport avec le message de haine qui continue de circuler appelant les jeunes à la violence. Karna Soro, chef de bureau de la MONUSCO Sud Kivu, est au micro de Emmanuel et la Mesio Akabedi.
En tant que MONUSCO, nous allons continuer à travailler dans le cadre du plan d'action à la pacification de la zone. Continuer à mobiliser les acteurs constructifs, les acteurs qui souhaitent qu'il y ait la paix et que ces populations puissent vaquer à leurs occupations. Et il convient aussi que tous les acteurs puissent comprendre qu'il n'est de vraie paix que si les populations arrivent à se prendre en charge. Une fois que la MONUSCO va entamer son départ, il faut que les investisseurs puissent venir, il faut qu'il y ait des entreprises qui se créent. Comme vous le savez, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'infrastructure. Il faut qu'il y ait des personnes prêtes à investir de leurs ressources pour construire ces routes-là. Mais tout ça va demander un environnement propice. Personne ne viendra avec son argent dans un endroit où il sait que, en un seul mot, en une seule phrase, quelqu'un peut mettre les jeunes dans la rue. Et donc, il est temps qu'on regarde dans la perspective du long terme. Nous devons tous travailler avec les autorités, avec les jeunes, avec les femmes, à essayer de construire et structurer cet environnement positif. J'insiste sur le mot positif. Ce qui importe, c'est assurer l'avenir des Congolais qui résident dans cette zone.
Et puis en visite de travail depuis 48 heures au Tanganyika, le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en charge des affaires humanitaires, Mac Lachlan Carr, s'est rendu ce jeudi à Kabeyamayi dans le territoire de Nyunzu. Nous sommes à 200 km à l'ouest des Kalemie. Objectif, évaluer la situation humanitaire d'environ 3600 déplacés vivant dans une région confrontée aux problèmes de sécurité à cause de l'activisme des groupes armés Mai Mai à Panapale. La MONUSCO vient de déployer une base militaire temporaire des casques bleus indonésiens pour permettre les opérations des acteurs humanitaires dans la zone. Reportage de François-Xavier Mibé qui revient de la zone.
La localité de Kabeyamayi est située à 3 quarts d'heure de vol par hélicoptère de Kalemie, mais à 34 km au nord de Nyunzu. C'est là que le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies vient d'effectuer une mission de travail. Kabeyamayi, une zone de retour, a monté 4 sites où vivent au total 3600 personnes déplacées qui expriment des besoins humanitaires énormes. Tous ces déplacés ont fui l'insécurité qui cause depuis 3 ans l'activisme des combattants armés Mai Mai du groupe Apanapale dans leur village d'origine. Le représentant spécial adjoint, Mac Lachlan Carr.
Notre travail ici, c'est de faciliter le dialogue, de travailler avec les autorités et trouver des solutions pour créer la cohésion sociale dans laquelle la population peut rentrer chez eux.
À Kabeyamayi, il se trouve 3 axes qui ouvrent la voie à d'autres localités importantes. C'est le cas de Kabeyamayi, Nyunzu, Kabeyamayi, Lengwe qui conduit à Kongolo, Kabeyamayi, Mukundi, Koki qui ouvre la voie à Kisengo. L'administrateur de territoire, Hubert Kanzavumba.
L'axe Kabeyamayi, Mukundi et Kampulu. L'ennemi est encore là, c'est inhabitable par nos populations.
Des retours de Kabeyamayi, François Djabemi, Radio Kapi.
Nous l'avons dit au sommaire, mesdames et messieurs, les audiences ont repris à la cour militaire de l'ex-Kassai occidental sur le meurtre des deux experts des Nations Unies en 2017. Arrêté à Kinshasa puis ramené à Kananga, le journaliste Sosten Kambindi a été entendu hier jeudi comme renseignant. Il a été confronté à Ben Israël Ntumba, un autre journaliste également en détention, autour de la première vidéo du meurtre des Zaïda Catalan et Michael Sharp. François Kadima nous en parle.
La justice militaire veut avoir de la lumière sur la première vidéo du meurtre des deux experts de l'ONU et les circonstances dans lesquelles Sosten Kambindi et Ben Israël Ntumba sont entrés en sa possession. Invité en premier, Sosten Kambindi a indiqué avoir vu la vidéo pour la première fois un dimanche du mois d'avril 2017 entre la main d'un avocat, Maître Prosper Kamalou, un frère de son église. C'est celui-ci qui lui a proposé de la prendre et la diffuser. Le journaliste proposa de remettre plutôt la vidéo aux autorités. C'est en répondant au rendez-vous pris avec Justin Milunga, à l'époque vice-gouverneur du Kadha central, qu'il dit avoir trouvé Ben Israël Ntumba, un autre confrère. Et là, c'est Maître Kamalou qui dit avoir reçu la vidéo de Ben Israël Ntumba. À cette audience, la cour a décidé d'inviter Ben Israël Ntumba par rapport à cette version des faits. Lui a plutôt cité Roger Bouchabou comme première personne qu'il avait vue et qui détenait la vidéo. L'affaire a été renvoyée au mardi 5 octobre où Maître Prosper Kamalou et Roger Bouchabou y sont attendus pour une confrontation par rapport à toutes ces versions. Notons que lors de cette séance, la question des appels téléphoniques entre Sosten Kambindi et l'ancien gouverneur de Kassa Central, Alex Kandé, un jour après le meurtre, a été abordé. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Autre nouvelle, mesdames et messieurs, en République démocratique du Congo, environ 12% des détenus sont malnutris et en moyenne, un décès est enregistré chaque jour parmi la population carcérale dans une dizaine de prisons des 8 provinces du pays, dont la ville de Kinshasa. C'est ce qui révèle le rapport de l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO. Ce rapport a été partagé lors de la réunion qui a été convoquée hier jeudi par la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux par vidéoconférence et à laquelle ont pris part la MONUSCO et les gouverneurs des provinces concernées. Bernard Nyangui pour les détails.
8 provinces qui abritent les 12 prisons couvertes par l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO sont Kinshasa, Congo central, Nord Kivu, Tanganyika, Sud Kivu, Ituri, Kasai central et Kasai. Le constat, après des visites dans ces maisons carcérales, selon les responsables de la MONUSCO, est amer. Près de 12% des détenus souffrent de la malnutrition, parfois sévère, avec une moyenne d'un décès par jour. La ministre de la Justice et garde des Sceaux, qui a initié cette réunion en réponse à ces rapports, veut redynamiser la collaboration entre les autorités centrales et provinciales concernant l'approvisionnement des prisons en denrées alimentaires, ainsi que la gestion des établissements pénitentiaires. À l'issue de cet atelier, il est envisagé qu'une solution durable sera trouvé pour pallier l'insuffisance des effectifs des policiers pour la sécurisation des prisons. Un cadre de dialogue a aussi été mis en place, comprenant le gouverneur de province, le ministère de la Justice et la MONUSCO pour une gestion concertée des maisons carcérales dans le pays. Goma, Bernard Nyangui, Radio Kapi.
Ce journal se poursuit. Le prix du carburant a augmenté depuis une semaine dans la ville de Beni. Selon que l'on s'approvisionne à la station-service ou auprès des revendeurs, communément appelés Kadhafi, la hausse varie entre 2000 et 2400 francs congolais. Du côté des importateurs de produits pétroliers, on explique cette hausse par une relative pénurie occasionnée par des retards de livraison. Les détails avec Gulen Kassassia.
C'est depuis jeudi dernier que le consommateur a commencé à observer la hausse du prix à la pompe à travers la ville. Actuellement, un litre de carburant se vend à 2000 ou 2100 francs congolais dans les stations-service de Beni. Auprès de Kadhafi, il faut débourser jusqu'à 2200 voire 2400 francs congolais. Moïse revend de l'essence en détail au quartier Matungi. Nous revendons actuellement à 2200. Avant, nous revendions à 2000 et 1950 les litres. Nous apprenons qu'il y a carence d'essence au niveau des stations et même au dépôt. Avant ces situations, nous achetions un bidon à 45 000. Aujourd'hui, c'est 52 000 francs. C'est pourquoi nous avons aussi haussé le prix. Les conducteurs de moto-taxi sont en train d'acheter sans aucun problème. Pour le moment, la hausse du prix du carburant n'a pas eu de conséquences sur le prix du transport. C'est dont se plaignent notamment les conducteurs des taxis-moto. Roger est l'un d'eux.
Les courses qui étaient à 500 restent toujours à 500. Alors que les litres qui étaient auparavant à 1500 revient maintenant à 2200.
Le président des importateurs de produits pétroliers à Beni reconnaît une certaine pénurie dans la ville depuis la semaine dernière. Il explique que les camions-citernes qui approvisionnent la ville à partir du Kenya et Rwanda traînent encore sur la route, ce qui a occasionné une rareté de produits pétroliers à Beni. Beni, Glen Kassassia, Radio Okapi.
Et puis, une autre carence, cette fois-ci, c'est des poissons à Idiofa depuis l'interdiction de la pêche à cause de la pollution de l'eau de la rivière Kassai depuis quelques mois. La société civile locale plaide pour l'assouplissement de cette mesure dans cette partie de la province du Kwilu. Le président Jean-Marie Bell Eleng indique que tous les marchés sont restés sans poissons et la population manque de quoi se nourrir, sauf des feuilles. Il sollicite l'implication du gouvernement tant national que local, afin de sauver cette population. Irène Boma pour plus de précisions.
C'est la famine qui bat son plein dans les territoires du Djofa. On ne trouve plus de poissons au marché et la population de cette partie de la province du Kwilu est devenue totalement végétarienne, a déclaré le président de la société civile locale. À l'en croire, cette situation est due à la mesure interdisant la consommation des poissons de la rivière Kassai qui a été polluée depuis quelques mois. Maître Jean-Marie Belseling qui alerte appelle les gouvernements tant provincial que national à pouvoir assouplir cette décision afin de sauver cette population qui ne sait plus à quel saint se vouer.
La vie est pénible parce que s'il n'y a pas de poissons, nous n'avons pas de grandes forêts qui nous produisent des gibiers. Donc on ne vit que des poissons et plus on a interdit des poissons. Quand vous arrivez au marché, les étalages sont vides et vides. On vit de feuillage, mais le reste c'est des viandes. Même les poissons de mer, à un moment, il n'y en a pas. Les chinchards, il n'y en a pas. S'il y a lieu d'assouplir cette mesure-là pour permettre à la population de bien vivre, on peut demander au gouvernement provincial et national d'assouplir cette mesure.
Par rapport à cet appel, la réaction du gouvernement provincial du Kwilu vous sera communiquée ultérieurement. Pour rappel, cela fait déjà plus d'un mois que cette rivière a retrouvé sa coloration habituelle, a fait savoir le président de la société civile du Djofa. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Et puis on revient ici à Kinshasa, lancement officiel hier jeudi du projet de reboisement de 12 millions d'arbres sur 10 000 hectares dans deux chefferies de la province du Kwango à la résidence de l'ambassadeur belge à Kinshasa. Ce programme de plantation de 12 millions d'arbres dans les savanes du Kwango aura un impact environnemental et socio-économique sur les vécus quotidiens des communautés locales, d'après Jérôme Tei, directeur général de Colruyt Group, une chaîne de supermarchés de droit belge. Jeff Colruyt est au micro de Tati Mapoukou.
On va faire 12 millions d'arbres sur 10 000 hectares dans la province Kwango. On a fait déjà des accords avec les chefs locaux et on a démarré les pépinières avec les deux NGO qu'on va travailler avec, c'est-à-dire Kadim et Fajalobi. On a cherché un espace où il n'y a pas d'arbres, hein. Tout est brûlé là, il n'y a rien. La reforestation, c'est très important là-bas. C'est nécessaire. C'est assez près aussi de Kinshasa pour le transport, pour l'organisation, c'est aussi un temps. Et on a trouvé la chefferie, en fait, qui était très accueillant et intéressé pour travailler avec nous. L'aspect socio-économique, c'est très important pour nous, c'est-à-dire qu'on a fait un accord sur un cahier de charges pour faire les investissements structurels, c'est-à-dire un pont, aussi un hôpital et peut-être des écoles. C'est un arrangement qu'on va faire. Il y a des investissements qui vont se dérouler dans les années qui viennent.
Plus de 2000 enseignants d'Arou s'insurgent contre la décision de la Rabobank qui les oblige à aller percevoir leur salaire à Ouattara, à plus de 180 km d'Arou Centre, dans la province voisine du Haut-Touélé. Pour eux, cette décision les expose au risque des coupeurs de route. D'autres estiment qu'effectuer ces voyages est coûteux pour les maigres salaires qu'ils reçoivent mensuellement. Leur position est soutenue par la société civile qui estime que la rentrée scolaire prévue pour lundi prochain est hypothétique dans cette entité territoriale. Le point avec Jean-Claude Lokidile.
Ces enseignants n'ont pas reçu leur salaire du mois de septembre dernier. Contrairement au mois précédent, ils étaient payés sur place à Arou. Le président du syndicat de ces enseignants dit que cette situation leur cause des préjudices car ils ne sont pas en mesure de préparer la rentrée scolaire de leurs enfants. Léonard Ndikou plaide pour que ce problème soit vite résolu pour permettre aux enseignants de profiter des modiques salaires qu'ils reçoivent mensuellement de l'État.
Ce que nous gagnons, c'est dans les 180 000 francs. Les voyages ou aller-retour, ça fait environ 20 dollars pour quelqu'un qui est du côté côté de Sud-Soudan, il doit faire dans les 300 km pour aller toucher son salaire alors qu'il y a des banques à Arou.
Du côté de la province éducationnelle Ituri 3, le responsable intérimaire de l'enseignement dit ne pas être saisi officiellement de cette décision de la Rabank. Luma Gwagore estime que cette situation met en danger les enseignants qui doivent aller chercher leur salaire à une centaine de kilomètres de leur lieu de travail.
Nous n'avons pas un subventionnement qui nous autorise cela. Donc, en cas où un enseignant va, nous ne pouvons pas l'autoriser à aller là-bas, ni de notre bureau pour aller là-bas. On ne peut pas l'autoriser parce qu'en cas où il y a un problème, nous ne serons pas responsables.
La société civile d'Arou craint que cette cacophonie ne vienne perturber la rentrée scolaire prochaine. Le responsable local de la Rabank n'a pas souhaité s'exprimer à ce sujet pour l'instant. Bounia, Jean-Claude Loki, dit les Radio Capi.
Actualité internationale.
En Guinée, le leader de la junte, le colonel Mamadi Doumbaya, a prêté serment comme président de la transition ce vendredi. À cette occasion, il s'est engagé à ne pas être candidat à des futures élections. Et puis en Éthiopie, la France condamne l'expulsion du personnel onusien, selon le ministère des Affaires étrangères. Les personnels de l'ONU doivent pouvoir continuer de mener à bien leur mission alors que la grave crise humanitaire continue de se détériorer avec plus de 5 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire d'urgence dans plusieurs régions du nord de l'Éthiopie, souligne le communiqué de la diplomatie française.
L'invité.
Le professeur Julien Kilanga est notre invité dans cette édition. Cet ancien recteur de l'université de Lubumbashi a été investi le 24 septembre dernier comme membre titulaire de l'Académie des sciences belles-lettres et arts d'Angers en France. Il est l'unique Africain qui siège dans cette institution du savoir. Joint depuis la France, il explique ce qui a contribué à son admission dans cette société savante et du rôle qu'il va y jouer, sans oublier les bénéfices que la RDC va y tirer. Le professeur Julien Kilanga s'entretient avec Jean Ngandou. Suivez.
Professeur Kilanga Moussindé, bonjour. Le 24 septembre dernier, vous avez été investi comme membre titulaire de l'Académie de sciences, belles lettres et arts d'Angers en France. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette académie?
L'Académie des sciences, belles lettres et arts d'Angers a été créée en 1685 grâce à l'amitié d'un conseiller François Grandet qui a pu obtenir de Louis XIV la faveur sollicitée pour la création de cette académie. Et cette autorisation a été officialisée par lettre patente signée à Versailles en juin et enregistrée au Parlement le 7 septembre suivant. Actuellement, l'académie est présidée par Pierre Bois. On a comme instance le conseil d'administration, le bureau de l'académie, le président et les présidents de section. Et nous distinguons la section art, histoire, lettres, sciences de la vie, économique, sciences humaines et sociales et technologie. On a particulièrement 60 membres titulaires et une centaine de membres associés. Et pour l'ensemble, bien sûr, ceux qui ne sont plus actifs, on a des membres titulaires émérites, des membres titulaires honoraires. L'Académie publie le bulletin de l'Académie et les mémoires de l'Académie. Le domaine géographique de l'Académie, c'est le pays de la Loire. Et ces réunions qui interviennent deux vendredis par mois.
Qu'est-ce qui a milité en faveur de vous pour que vous soyez membre titulaire de cette académie?
Qu'est-ce qui a milité en faveur de mon élection? J'ose imaginer qu'il s'agit bien sûr de mon passé, de toutes les activités que j'ai eu à réaliser tout au long de mon parcours, mon passage à la francophonie, mes recherches et mes publications en tant que chercheur dans le domaine des langues, dans le domaine de la linguistique et comme écrivain francophone. Cela a beaucoup joué pour mon élection ou mon intégration dans cette académie comme membre titulaire.
Quel rôle allez-vous y jouer?
Alors, quel rôle je joue là-dedans? Eh bien, lors de la cérémonie de mon intronisation, après avoir présenté mon prédécesseur, François Pignet, j'ai dû présenter une communication qui présentait les contours de l'action de la francophonie et de la langue française. Et en fait, ma contribution au niveau de l'académie consistera bien sûr à contribuer au rayonnement de la langue française et réaliser des travaux de recherche dans le domaine de la francophonie. Et bien sûr, comme écrivain, j'aurai aussi un grand rôle à jouer là-dedans.
Et quel pourrait donc être le bénéfice de la RDC ou tout simplement de l'intellectuel congolais du fait de votre présence dans cette institution du savoir?
Alors, quel bénéfice la RDC peut trouver dans ma présence dans cette institution? Il y a d'abord la visibilité de la RDC dans cette institution scientifique, cette institution du savoir, et ma présence pourrait contribuer à faire rayonner l'image de la République démocratique du Congo. J'imagine seul Africain dans cette institution, ça pourrait normalement servir au rayonnement de l'Afrique entière.
Et pour terminer, quelle différence y a-t-il entre l'Académie de sciences, belles lettres et arts et l'Académie française?
L'Académie française est fondée par Richelieu en 1635. Ça a été enregistré au Parlement de Paris en 1637. C'est par des lettres patentes signées par Louis XIII et qui consacrent le caractère officiel d'une institution parisienne avec commission à caractère national pour jouer le rôle important, celui de donner à la langue française ses moyens. La plupart de ces missions, c'est entre autres la défense de la langue française, le dictionnaire de l'Académie, et ainsi de suite. Et cette institution compte 40 membres, dont un secrétaire perpétuel. Et pour le moment, il en reste 34. Il y a 6 places vacantes laissées par quelques membres qui sont décédés. Les deux institutions coïncident évidemment comme institutions savantes, en fait, sociétés savantes, bien sûr, en fonction de leur cadre, leur domaine d'action. L'Académie d'Angers fonctionne dans le domaine de Maine-et-Loire et l'Académie française a un caractère national.
Professeur Julien Kilanga, je vous remercie.
Merci, cher ami, de vos questions.
Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre particulière attention.